Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi qui aujourd'hui vous mène sur les sentiers de l'animalité humaine, plus discontinue et escarpée que l'on veut bien le croire.
C'est un tout nouveau paysage intellectuel qui s'ouvre à nous. Là où la métaphysique tenait du miracle et arrêtait la réflexion, l'évolutionnisme, au contraire, la relance, nous mettant au défi de comprendre les transformations empiriques et concrètes qui façonnèrent le visage actuel de notre humanité. Comment comprendre empiriquement, et sans recourir à des entités absolues, qu'un animal ait pu se mettre à parler quotidiennement et parfois passionnément des dernières élections ou du scandale de la peine de mort, à placer au centre de sa vie professionnelle la masse d'un neutron, ou à vouloir mourir pour un être invisible et tout-puissant appelé Yahvé, Allah ou Dieu. Tous ces comportements, quand on les décrit sobrement et fonctionnellement, et qu'on les considère sur le fond des comportements que nous connaissons aux animaux, sont loin d'aller de soi. Si le naturalisme est la théorie qui intègre le fait évolutif comme un ingrédient irréductible de notre humanité, et qui voit en nous des êtres de nature jusque dans nos comportements les plus inédits, alors le naturalisme est aujourd'hui un défi théorique majeur. Une pensée riche d'étonnements à venir. Il peut réveiller l'anthropologie de son sommeil métaphysique et nous faire voir en face, comme au premier jour, ce que les formes de vie humaines ont d'énigmatique et de fascinant.
Everything I do, the monkey won't do.
Nothing in the world, the monkey won't do.
Everything I do, the monkey won't do.
Nothing in the world, the monkey won't do.
Dressing, the monkey dressing too.
Nothing in the world, the monkey won't do.
I'm going out, the monkey going out too.
Nothing in the world, the monkey won't do.
Everything I do, the monkey won't do.
Nothing in the world, the monkey won't do.
Everything I do, the monkey won't do.
Nothing in the world, the monkey won't do.
I'm drinking, the monkey drinking too.
Nothing in the world, the monkey won't do.
I eaten the monkey eaten too.
None in the world the monkey won't do.
Bonjour Étienne Bambonnet.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur de philosophie contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous venez de lire les premières lignes de votre essai paru aux éditions du Seuil, Le complexe des trois singes, essai sur l'animalité humaine. Alors en quoi le naturalisme est-il un défi, selon vous? Et qu'est-ce que le naturalisme, surtout déjà?
Le naturalisme, je dirais que c'est un... On peut l'entendre en deux sens, en réalité. On peut l'entendre en un sens épistémologique et considérer que l'ensemble des sciences doit adopter les méthodes des sciences de la nature et se régler sur elles pour mieux connaître les phénomènes qu'on étudie. Le naturalisme, ça peut être aussi au sens ontologique, l'idée que tous les êtres, quels qu'ils soient, sont des êtres de nature. Le naturalisme aujourd'hui nous concerne de très près, si je puis dire, parce que nous savons depuis plus de 150 ans maintenant, depuis 1859, disons-le comme ça, depuis Darwin, l'origine des espèces, que nous provenons de l'animal, que l'animal est en nous comme un lointain passé ou comme un état encore très actuel. Et donc nous avons à nous penser depuis l'animal. Nous avons à penser l'humain depuis cette origine. Je ne suis pas sûr qu'on ait pris toute la mesure de ce défi théorique qui nous enjoint aujourd'hui de penser que, par exemple, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur France Culture, c'est encore un comportement issu de la vie. Que tous nos comportements, jusqu'au plus intellectuel, jusqu'au plus moraux, sont issus de mécanismes naturels. Et c'est un défi théorique pour tout un chacun de penser cette origine animale.
Et de penser cette continuité entre l'animal et l'homme. Et c'est une continuité dont on entend beaucoup de thèses, d'échos aujourd'hui, notamment dans notre rapport à l'alimentation, à laquelle vous vous opposez.
Alors, il y a une continuité d'émergence, c'est-à-dire que nous sommes issus de très, très anciens primates, et il y a à peu près 6 ou 7 millions d'années, nous commençons à inventer une histoire très particulière qui mène à l'état actuel de notre humanité. 6 ou 7 millions d'années d'hominisation qu'on peut penser comme un fil continu, même s'il est très embrouillé, très buissonnant, comme on dit, avec toutes sortes d'espèces d'hominidés qui compliquent le schéma, mais nous sommes continuellement issus de la vie. En revanche, c'est vrai que quand on dit, ou quand Darwin dit par exemple, la différence entre l'homme et l'animal ne peut être concernant les facultés mentales qu'une différence de degré, lorsqu'on dit très spontanément que la différence entre l'espèce humaine et les espèces animales est exactement comparable à la différence entre différentes espèces animales, nous jouons cette continuité, nous jouons cette proximité de manière massive, et il me semble qu'on rate une certaine spécificité de nos comportements, une certaine césure, alors non pas dans l'émergence, hein, mais dans la comparaison entre les comportements, une vraie césure radicale entre comportements animaux et comportements humains. Il me semble qu'il y a un certain nombre de comportements humains qui sont propres à notre humanité, qu'on trouve à l'état, disons, de précurseur peut-être chez les animaux, mais que c'est très peu comparable et que s'invente avec l'humain un univers de culture qui accomplit un saut, je dirais, dans l'évolution. Alors, ça n'est pas un saut métaphysique, hein, puisque l'émergence est naturelle, bien sûr, elle est darwinienne, mais c'est un saut comportemental.
Vous tenez une position tout à fait originale, il faut le dire, il faut insister là-dessus, parce que on a plutôt tendance à entendre les médias, dans les publications sur le sujet, plutôt une défense de ce que vous appelez le zoocentrisme, alors qu'il peut prendre aussi plusieurs noms, qui a plusieurs appellations, c'est l'animalisme, le naturalisme, aussi le vitalisme, le continuisme, l'antispécisme, l'animisme, finalement. Vous vous opposez à toutes ces théories, toutes ces mouvances qui vont partir de Darwin et dire qu'entre les hommes et les animaux, il n'y a qu'une différence de degré. Vous voulez rétablir la différence entre les hommes et les animaux. Ce qui peut tout de suite révolter les gens, parce qu'on a complètement intériorisé effectivement ce qui serait de l'ordre de la continuité entre mon chien et moi-même, entre une vache et moi-même, etc.
C'est vrai qu'on a intériorisé cette continuité, cette proximité, on a intériorisé cette idée qu'au fond nous sommes des animaux comme les autres. On a installé un paysage nouveau qui est un paysage d'évidence. Je pense que ce sont des évidences très sincères chez les gens, très viscérales même parfois. Selon lesquels, au fond, la différence n'est pas si grande, selon laquelle nous sommes plus essentiellement animaux qu'humains. Ce paysage intellectuel nouveau, mais encore une fois très, très sincère, très viscéral, c'est ce que j'appelle un zoocentrisme, c'est-à-dire au centre de notre humanité, il y a plus essentiellement que cette humanité, comme un fondement essentiel, notre animalité. Or, je pense qu'on se raconte des histoires en réalité. C'est-à-dire qu'on peut distinguer entre un combat pratique, un engagement pratique en faveur des animaux qui est à l'œuvre depuis peu de temps, c'est tout nouveau, on est au seuil d'une révolution et d'une belle révolution pour élargir la communauté morale, y intégrer le plus possible d'animaux. Donc cette révolution, elle est en route et il faut l'accompagner. Mais il me semble qu'on l'accompagne mal si on se raconte des histoires et si on se raconte qu'au fond, nous sommes tous des animaux comme les autres. Parce que il y a une autre possibilité, une autre façon d'envisager les choses, qui consisterait à dire tout simplement, non, nous sommes très différents. Les comportements, l'acculturation du vivant humain est telle que ces comportements ne sont plus vraiment comparables à ceux d'un animal, par le langage, par les règles, par les conventions, par la pédagogie, par toutes sortes d'institutions. Nous sommes très différents, le monde que nous avons inventé est très différent. Mais ça ne nous empêche pas, au contraire, d'une certaine manière, au contraire, de les respecter et d'intégrer dans cette communauté humaine. Il faut l'élargir, cette communauté humaine. Même si elle est très différente, il faut l'élargir le plus possible en direction des animaux. Donc la différence, ce qu'on appelle en philosophie la différence anthropologique, et en effet à laquelle je tiens, parce que je la crois très réelle, la différence anthropologique n'empêche pas le respect. Au contraire, je pense qu'on peut inventer un respect de vérité, un respect dans la différence.
Le zoocentrisme dont vous parlez aussi, Étienne Bimbenet, est une réponse, est une manière de critiquer le présent qui court à sa perte, une perte écologique, une perte économique, une perte politique. Comment pouvez-vous critiquer le zoocentrisme qui est aussi, en même temps, au-delà de cette abolition de la différence anthropologique, permet de répondre très pratiquement à des urgences actuelles ?
Je pense qu'on a en effet une urgence qui est là. On est en train de mettre à sac cette pauvre planète. On est en train d'inventer une ère de dévastation totale qui est en effet, on va vers le pire. Mais je pense qu'il faut raison garder. C'est-à-dire que c'est pas parce que notre lien à la nature est devenu négatif, prédateur. Enfin, je suis bien d'accord avec vous sur la crise écologique et environnementale. Donc, Mais ça n'est pas une raison pour se raconter qu'au fond, nous sommes tous des animaux, comme une espèce de réconciliation d'hommes coupables d'avoir trop creusé la différence. C'est vrai que nous l'avons creusé, cette différence. Ça s'appelait l'anthropocentrisme, qui consistait à dire que l'humain est un vivant créé à l'image de Dieu, par exemple, ou c'est un vivant séparé de tous les autres vivants par sa raison, par sa pensée, par le langage. Il faut tourner cette page de l'anthropocentrisme radical, bien sûr. Il faut avancer dans la réconciliation, si je puis dire, avec la nature, en finir avec cette prédation honteuse. On est en train d'abolir toute forme de biodiversité autour de nous. Enfin, donc, en effet, je suis bien d'accord avec vous sur cette crise, mais je pense qu'on peut inventer autre chose dans notre rapport aux animaux qui ne soit pas un conte de fées. Et ça peut être pédagogiquement tout aussi efficace de se dire qu'au fond, nous sommes très différents. Mais peut-être que, par exemple, la responsabilité nous incombe. Si nous étions vraiment comme des animaux, alors on pourrait attendre des animaux qu'ils prennent en charge l'avenir de cette planète. Mais ils ne le feront pas, bien évidemment. C'est à nous de le faire. Et c'est à nous de le faire parce que nous sommes très différents et que nous avons, par exemple, un sentiment de la responsabilité à l'égard de ce que nous avons commis et de ce que nous pouvons réparer. Donc ça fait une vraie différence entre l'homme et l'animal. Et ça fait une vraie responsabilité. C'est à nous qu'incombe la tâche de pacifier notre rapport avec la nature.
Alors finalement, ce zoocentrisme est un conte de fées et fait lui aussi peut-être partie de ce présent qui se raconte des histoires, et plutôt que de regarder les choses en face ou de mettre l'homme face à ses responsabilités, comme vous le dites, Étienne Barbenet va finalement plutôt miser sur une sorte de retour à l'animal en soi. Est-ce que ce serait une forme de régression vers l'animal en soi? Est-ce que ce serait une forme de retour, d'attitude un peu réactionnaire, on pourrait dire?
Alors vous faites bien de poser cette question. Ça, c'est un procès que Luc Ferry, par exemple, a fait une certaine pensée écologique il y a quelque temps dans un ouvrage où il disait cette écologie éventuellement philosophique, elle est réactionnaire parce qu'elle va jouer l'enracinement contre l'émancipation, etc. Alors, je pense que c'est tout le contraire. Très honnêtement, je pour avoir fréquenté un certain nombre d'animalistes, c'est-à-dire de gens qui très sincèrement luttent pour le bien-être animal ou contre la maltraitance que nous leur infligeons, je pense au contraire très clairement qu'ils se situe dans un camp progressiste et qu'ils ont bien raison de vouloir la fin de cette maltraitance séculaire et qu'il faut accompagner leur combat. Donc c'est très important cette idée-là. Mais ce qu'on entend en sourdine souvent dans leur combat, c'est ce qui a fait le pire, c'est de penser que nous étions différents et donc il faut abolir cette pensée coupable. Ben non, c'est pas une pensée coupable, c'est juste une pensée. Alors elle était mal formulée parce qu'elle se formulait théologiquement par exemple ou métaphysiquement, elle se formulait à travers des grandes entités comme la pensée, la raison, le langage avec des grandes majuscules. Bon, qu'elle se formulait métaphysiquement est mal d'une certaine manière. Mais ça n'est pas parce qu'elle s'est mal formulée ou qu'elle a conduit au pire qu'on est obligé de s'en débarrasser. On peut penser des comportements spécifiquement humains, on peut penser des institutions spécifiquement humaines, un paysage spécifiquement humain, et vouloir intégrer dans une communauté humaine la plus large possible, le plus possible d'animaux. Ça n'empêche pas.
Culture de groupe ou nécessité sociale, le jeune bonobo apprend la plurisexualité avant d'être en âge de procréer. Ces chimpanzés nains qui vivent souvent à proximité des plantations de canne à sucre dans les forêts équatoriales du Congo sont nos plus proches cousins. Nous partageons avec eux 98,4% de nos gènes et ce n'est peut-être pas un hasard si leur intérêt pour le sexe est au moins égal au nôtre. Leurs ébats sont tantôt hâtifs, tantôt longs et passionnés, mais jamais violents. La femelle ne se soumet pas, au contraire. Elle regarde intensément le mâle dans les yeux, comme pour l'encourager.
Pour les Amérindiens, et la plupart des peuples restés longtemps sans écriture, le temps des mythes fut celui où les hommes et les animaux n'étaient pas réellement distincts les uns des autres et pouvaient communiquer entre eux. Faire débuter les temps historiques à la tour de Babel, quand les hommes perdirent l'usage d'une langue commune et cessèrent de se comprendre, leur eût paru traduire une vision singulièrement étriquée des choses. Cette fin d'une harmonie primitive se produisit, selon eux, sur une scène beaucoup plus vaste. Elle affligea non pas les seuls humains, mais tous les êtres vivants. Aujourd'hui encore, on dirait que nous restons confusément conscients de cette solidarité première entre toutes les formes de vie. Rien ne nous semble plus urgent que d'imprimer dès la naissance, ou presque, le sentiment de cette continuité dans l'esprit de nos jeunes enfants. nous les entourons de simulacres d'animaux en caoutchouc ou en peluche. Et les premiers livres d'images que nous leur mettons sous les yeux leur montrent, bien avant qu'ils ne les rencontrent, l'ours, l'éléphant, le cheval, l'âne, le chien, le chat, le coq, la poule, la souris, le lapin, etc. Comme s'il fallait, dès l'âge le plus tendre, leur donner la nostalgie d'une unité qu'ils sauront vite révolue. Il n'est donc pas surprenant que tuer des êtres vivants pour s'en nourrir pose aux humains, qu'ils en soient conscients ou non, un problème philosophique que toutes les sociétés ont tenté de résoudre.
C'était un extrait de la leçon de sagesse des vaches folles, un texte de Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, interprété par Georges Clès, Étienne Marbenet. Étienne Marbenet, vous citez ce texte dans votre livre. On y entend cette idée d'intuition primitive, d'intériorisation, d'une unité entre les hommes et les animaux. Et puis juste avant, on a entendu ce documentaire diffusé sur France 5 sur la sexualité des bonobos. Exemple que vous citez aussi régulièrement dans votre ouvrage, Étienne Marbenet, qui rappelle que entre les singes et nous-mêmes, il y a une unité, une continuité, un patrimoine génétique commun qui fait que cette unité est une idée contre laquelle il est difficile de lutter. C'est plus qu'une intériorisation de mythes ancestraux ou de contes d'enfants. C'est aussi une réalité biologique sur laquelle vous revenez, un paradigme scientifique qui a l'hégémonie aujourd'hui.
Alors la proximité, je dirais biologique, elle est réelle bien évidemment, et on cite souvent les 98,4% de gènes que nous avons en commun avec les chimpanzés, et donc ça, il n'y a bien évidemment pas question d'en douter. Simplement, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans ce naturalisme, qui naturalise très profondément l'humain, ou qui le biologise à travers la génétique par exemple ici, ce qui est sous-entendu, c'est que quand on conclut que du coup nous sommes très proches, on sous-entend que nous sommes essentiellement et uniquement nos gènes. Or, nous ne sommes pas que nos gènes. Là, il y a une espèce de mineur qui est sous-entendu dans le syllogisme. Nous avons un patrimoine génétique fortement commun, donc nous sommes très proches. Mais il se trouve que les 1,6% restants produisent quelque chose comme une efflorescence de comportements culturels qui font une immense différence. Et que si on examine les gènes très précisément dans leur fonction, on aperçoit qu'un très petit nombre de gènes peut produire une immense différence. Ça veut dire que dans ce naturalisme-là, on remarque que la plupart du temps, ce qui souligne la continuité ou la proximité, sont des biologistes, sont des éthologues, sont des neuroscientifiques, aussi. Sont des primatologues comme Franz De Waal, par exemple, qui sont très bons de leur côté. Il n'y a rien à redire sur ce qu'ils disent de la partie naturelle de nos comportements. Sauf qu'ils n'écoutent pas ce que les sciences humaines, par exemple, auraient à nous dire de l'humain. Mais à chaque fois, ce type de comparaison est très boiteux. Parce que c'est une comparaison qui est très instruite du côté des sciences de la vie et très peu du côté des sciences humaines. Qu'est-ce que, sur la sexualité par exemple, qu'est-ce qu'un anthropologue, qu'est-ce qu'un psychanalyste, quelqu'un psychologue de l'enfant, qu'est-ce qu'un sociologue aurait à nous dire sur la sexualité? Évidemment, on peut se dire, bah oui, on fait l'amour comme les bêtes. Ben, en fait, pas du tout. Bien sûr que non, on fait pas du tout l'amour comme les bêtes, vous le savez très bien. Si je me mettais tout nu dans ce studio et que je me mettais à danser sur la table...
Un petit peu surprise.
Vous seriez surprise, vous seriez gênée, je crois, très profondément gênée. Et je pense que c'est la preuve que nous avons intériorisé un certain nombre de valeurs, voire de tabous, ou en tout cas de règles, de comportements sexuels. Et que là aussi, là, même là, du côté de la sexualité, et je dirais peut-être là surtout, il y a de la culture, il y a une imprégnation culturelle.
Mais ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, dans cette première partie, Étienne Marbenet, de votre livre sur ce paradigme scientifique naturaliste, c'est qu'il est sous-tendu par une véritable configuration du savoir. C'est une orientation de pensée. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus loin que des contes, que des mythes. Il y a quelque chose qui est étayé par la science et qui fait que on ne peut croire que le fait que l'on soit similaire aux animaux. On n'arrive pas à avoir une autre thèse que ça, et entrevoir l'idée d'une différence fait qu'on le serait peut-être suspect de remettre en cause la science et des faits scientifiques.
Oui, c'est vrai qu'on peut parler ici de ce qu'on appelle en philosophie des sciences un paradigme, c'est-à-dire une forme de modèle dominant qui met une communauté de chercheurs d'accord sur ses principes, sur ses orientations de recherche. Et je pense qu'on vit depuis une trentaine, une quarantaine d'années au sein d'un paradigme naturaliste fort, épaulé en particulier par ce qu'on appelle les neurosciences cognitives depuis les années 60-70 et de manière accrue depuis. On s'est installé dans un paysage qui unifie l'ensemble des sciences de la vie et les sciences humaines sous le chef d'un paradigme cognitiviste, par exemple, qui va penser les comportements en termes de traitement d'information, optimisation d'information, etc., et qui va penser les comportements humains ou animaux de la même manière et sous le même lexique cognitiviste. Si bien qu'il y a une forme d'unification qui est forte et que l'ensemble des communautés de chercheurs se sont très progressivement accoutumés au même lexique, si je puis dire, qui fait que, comme vous le dites, il est très difficile aujourd'hui de réaccréditer un lexique différent, spécifiquement issu des sciences humaines. Moi, je pense évidemment à la psychanalyse, je pense à la psycholinguistique, de l'apprentissage verbal, etc., des descriptions très fines de la manière dont l'enfant apprend son langage. On a perdu un peu certain esprit de finesse qui consistait à pointer des comportements, des attitudes, des traits de caractère qui sont très très finement, si je puis dire, ancrés dans un environnement culturel et qui font que évidemment, quand vous traduisez ces comportements fins dans un lexique d'information, de représentation, de croyance, vous le rabattez très facilement sur le même comportement chez l'animal, par exemple. Et donc, je pense que il faut ne pas oublier ce que les scientifiques, les sociologues, les psychanalystes ont à nous dire sur la question. C'est très important face à un paradigme qui, encore une fois, est dominant et qui l'est aussi bien en psychiatrie, en psychothérapie, qu'il l'est de manière assez massive. Et c'est presque inquiétant, si je puis dire.
Vous parlez du gène, du cerveau et du singe comme une sorte de trois fétiches qui, en fait, iraient de pair avec ce paradigme. Et c'est ça qui est inquiétant, selon vous.
Oui, c'est une des retombées de ce paradigme. C'est-à-dire qu'on s'est accoutumé à cette idée qu'au fond, les gènes sont tout puissant dans notre vie. Par exemple, il y a un gène de la criminalité, il y a des gènes qui font notre vie. Et alors évidemment, il faut voir que la biologie de l'évolution, elle travaille avec la génétique de manière parfaitement légitime, mais ça n'est pas une raison pour produire un gène absolu qui ferait notre vie. De même que il y a une inflation du thème du cerveau dans notre à la fois évidemment dans les neurosciences, dans ce nouveau paradigme, mais y compris dans la vie quotidienne, si je puis dire, on s'est habitué via des magazines de psychologie, etc., à mettre le cerveau au centre, même grammaticalement, à parler le cerveau produit telle ou telle vie, il est le sujet grammatical, le cerveau déprimé plutôt que le cerveau du déprimé. Je peux être déprimé et c'est en vertu d'un certain état de mon cerveau éventuellement, mais c'est pas mon cerveau qui est grammaticalement déprimé, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a une espèce de petit glissement comme ça qui met le gène au centre ou le cerveau au centre ou qui fait du singe dans son intense proximité, parce que c'est vrai, vous regardez un singe dans les yeux, vous le regardez dans ses comportements, c'est très anthropomorphe et on peut jouer de cette proximité. Mais est-ce que c'est une raison pour dire que tout ce que fait le singe, au fond, nous ferions de la même manière, vous voyez. Et c'est vrai que on peut parler de trois fétiches, le gène, le cerveau, le singe, c'est-à-dire que Nous sommes spectateurs en quelque sorte de notre humanité. Nous disons notre humanité au fond c'est ça, c'est le gène, le cerveau, le singe. C'est pas ce que nous faisons au jour le jour, ça n'est pas ce que nous faisons en tant qu'êtres humains, ça n'est pas l'ensemble de nos formes de vie dans ce qu'elles ont de spécifique. C'est plutôt ce que la science nous apprend sur elle et ce que les sciences de la vie nous apprennent sur cette humanité. Comme si l'essentiel était là. Sauf que ce qu'elles nous apprennent sur notre humanité, au fond nous en sommes un peu spectateurs. Les gènes font ma vie, le cerveau fait ma vie.
C'est un oubli du subjectif.
Oui, l'oubli du subjectif. C'est-à-dire que évidemment, je suis de formation phénoménologique et donc je tiens beaucoup à ce que, quand on parle de la vie humaine, et c'est un héritage qui traverse les sciences humaines en particulier, ce subjectif-là, quand on parle de la vie humaine, on peut en parler en troisième personne, comme le font par exemple les sciences de la vie, mais on peut aussi en parler en première personne, comme on le fait en sciences humaines ou en philosophie, et dire qu'est-ce que je vis dans tel environnement social, qu'est-ce que l'enfant vit en première personne lorsqu'il apprend ses premiers mots. Et lorsque vous pensez les choses en première personne, c'est très différent, c'est un tout autre récit qui n'abolit pas le récit en troisième personne des sciences de la vie, mais qui est parfaitement complémentaire. Il faut entendre ce récit-là, il faut l'entendre parce qu'il nous dit quelque chose de très important sur ce que c'est que mener une vie humaine, voyez.
Mais c'est très paradoxal parce que finalement, cet appel aux sciences ou au naturalisme qui serait vu comme une manière de s'émanciper, comme une manière de revenir aussi à la vie telle qu'elle se vit, ce que vous êtes en train de dire, Étienne Marmenet, c'est que finalement, c'est beaucoup plus aliénant et beaucoup plus désubjectivant ou objectivant, on dira, que finalement, les sciences humaines, que l'on a beaucoup taxé de catégoriser les humains dans des cases, par névrose ou psychose pour la psychanalyse, par catégorie sociale pour la sociologie, par concept pour la philosophie. Finalement, ce retour à la nature, comment on peut expliquer qu'on le voit comme une sorte d'échappatoire, d'issue, alors même que les concepts biologiques sont peut-être les plus enfermants qui soient, dans la mesure où ce sont des faits et on ne peut pas agir dessus.
La biologie est une biologie scientifique, elle a besoin d'objectiver ses énoncés et elle le fait très bien. Mais on peut vouloir aussi repenser les mêmes phénomènes en première personne, comme je vous le disais, et se les raconter comme par exemple, vous citiez le cas de la psychanalyse, mais c'est vrai qu'il y a une tentative avec la psychanalyse aussi d'objectiver certains comportements, certaines névroses, etc. Mais il se trouve que la psychanalyse, elle commence par des récits en première personne. Je raconte mes rêves et j'essaie de les comprendre, d'en comprendre le sens ou la signification. Et cette partie-là, cette partie du subjectif, elle infuse dans les sciences humaines comme un héritage très précieux. Et il ne faut pas l'oublier. Parce que c'est vrai que les sciences de la vie sont des sciences du vivant. Alors, elles objectivent le vivant, mais il faut rappeler que le vivant, c'est aussi un vivant qui fait subjectivement sa vie. Et que n'importe quel animal, alors on peut penser l'animal en tant qu'espèce, on peut le regarder de loin en tant qu'espèce, mais on peut aussi le penser en tant qu'individu, que sujet vivant. Un chimpanzé qui se comporte de manière agressive, pacificatrice, réconciliatrice, etc. C'est un individu vivant qui subjectivement fait sa vie. Et c'est très important de restituer ce point de vue en première personne, parce que les choses sont très différentes à ce moment-là.
Moi, ma préoccupation s'inscrit au centre de la philosophie depuis Socrate. Socrate se demande comment nous devons vivre. Voilà la question. Que dois-je faire de ma vie? Et bien entendu, il y a de nombreuses questions plus particulières que cela, mais l'une des questions est: est-ce que je dois manger des animaux? Dois-je soutenir l'activité commerciale moderne qui consiste à consommer des animaux? Pour répondre à cette question, moi je crois que la question de la souffrance animale est une question centrale et elle mérite une réponse. La position est la suivante. La souffrance d'un être qui puisse ressentir la douleur est mauvaise. Et si l'on peut prévenir ou éviter cette souffrance, eh bien, il faut le faire. Peu importe qu'il s'agisse d'un être humain ou d'un animal non humain, la souffrance reste la souffrance, la douleur reste la douleur. Peut-être qu'y a-t-il des différences dans l'intensité de la souffrance, peut-être qu'il y a une différence de souffrance selon les espèces, mais il y a l'éthique unique qui nous dit, du point de vue utilitariste, que certains jugent un peu trop étroite, qui disent donc le plaisir c'est bon, la douleur c'est intrinsèquement mauvais, donc l'éthique animale distincte, je ne soutiens pas et les utilitaristes animalistes ne l'ont jamais soutenu non plus.
Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie, où j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Étienne Marmenet pour son essai Le Complexe des Trois Singes, essai sur l'animalité humaine, paru aux éditions du Seuil. Étienne Marmenet, on vient d'entendre la voix de Peter Singer, c'était sur France Inter le 31 mai 2013. Peter Singer, c'est un utilitariste américain à qui l'on doit La Libération Animale, qui est paru en 1975. Et on a entendu cette idée de souffrance animale, c'est peut-être le biais le plus courant par lequel on aborde cette continuité entre les hommes et les animaux, peut-être le discours le plus courant aussi de cette sensibilité qu'il y aurait entre nous et les animaux. Et finalement, ça rejoint ce que vous dites, Étienne Marmenet, tout à l'heure, de cette idée de vivre sa vie à la première personne. Vivre sa vie à la première personne peut être aussi la vivre sur le mode, sur le registre de la sensibilité, comme vient de le dire Peter Singer.
Oui, alors Peter Singer, c'est celui qui, en 1975, avec une espèce de best-seller mondial qui s'appelle La Libération Animale, lance vraiment, à grande échelle, si je puis dire, le courant de l'éthique animale. C'est-à-dire que c'est parti à partir des années 70, ça a commencé au début des années 70 en Angleterre, mais là, véritablement, il se passe quelque chose, en terre essentiellement anglo-saxonne. Il est suivi par Tom Regan en 83 avec la théorie des droits des animaux, etc., etc. Et c'est vrai que pour l'essentiel des courants en éthique animale, le fait massif, le fait dont tout provient, c'est ce qu'on appelle la sentience, la sensibilité au bien ou au mal. Ce fait d'ailleurs tellement massif qu'il commence à s'acclimater en français tel quel, c'est-à-dire qu'on commence à parler de sentience en français, hein, on ne traduit pas parce qu'il est tellement paradigmatique pour le coup que tout procède de là. Et c'est vrai qu'il insiste sur ce point, il a bien raison, parce que au fond, on pourrait dire c'est un fait qui fait droit. Quand un vivant souffre, je suis requis, en quelque sorte. D'abord, lui est requis de faire cesser sa douleur, hein, toutes affaires cessantes, si je puis dire, mais je suis moi-même requis de faire quelque chose. Et quelque chose qui est directement pratique, voire moral, dans la douleur d'un animal, et qui fait que la plupart des animalistes, hein, qui se mobilisent pour les animaux, en général, ont vécu des expériences de douleur animale. Ils ont été confrontés à cette sentience animale, et qui est tout sauf une expérience théorique, au fond. C'est-à-dire que on peut raisonner sur les facultés cognitives des animaux, on peut raisonner sur ce qu'ils ont ou non pas, mais comme disait Bentham, et c'est la phrase dont tous les animalistes revendiquent en général,
Jeremy Bentham, à qui on doit, qui est le chef de file de l'utilitarisme, en fait.
Absolument. Et fin 18e siècle, il a cette phrase canonique, hein, véritablement canonique, où il dit « la question n'est pas de savoir s'il pense ou s'il parle, la question est de savoir s'il souffre ». Et c'est vrai. On n'a pas besoin de produire des certificats d'intelligence ou de bonne conduite animale pour voler au secours de leur souffrance. Tout procède de cette souffrance. Et c'est vrai que, voilà, vous avez une forme de fait massif, alors qu'on peut éventuellement ensuite interroger. Mais avant de l'interroger, comme je le fais dans mon livre, en disant on peut peut-être faire plus que simplement alléger leur douleur, il faut d'abord voir en face cette douleur, parce que c'est très important. Et en particulier, on a chopé sur un comportement qui a été épinglé plusieurs fois par exemple, les théoriciens des droits des animaux, comme Gary Francione, par exemple, qui parle de schizophrénie morale. Il dit on est bien convaincu de cette sentience, de cette sensibilité des animaux, on est bien convaincu de la proximité qui nous relie aux animaux, etc. Et pourtant, nous les oublions.
On mange de la viande.
On mange de la viande. C'est-à-dire qu'à la fois nous les aimons, nous les cajolons, ça rejoint le texte de Lévi-Strauss où il disait les enfants vivent avec des animaux dans leurs histoires d'enfants, avec leurs peluches, etc. Il y a une espèce d'empathie comme ça, c'est naturel entre l'humain et les animaux. Donc il y a une forme de proximité très tendre en quelque sorte, d'empathie charnelle si je puis dire. Et en même temps, il se trouve que nous oublions cette maltraitance des animaux en batterie ou en laboratoire, et que c'est les deux à la fois, très bizarrement. Et je pense qu'on en est un peu tous là. C'est ce qu'ils appellent la schizophrénie morale. Hein, nous sommes à la fois très proches et très loin des animaux. Il y a ceux que nous aimons, que nous cajolons. Il y a en particulier les animaux de compagnie, pour lesquels nous sommes souvent prêts à dépenser sans compter. Et puis, il y a les animaux de batterie. Et là, il faut au contraire dépenser le moins possible et les oublier le plus possible. Et c'est deux poids, deux mesures. Et c'est très étonnant. Tout de même.
Paradoxalement, La Libération Animale de Peter Singer a donné lieu à un mouvement incroyable d'éthique animale, mais il n'a pas d'efficace. C'est ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on est sensible à la cause animale, on va sûrement réduire nos habitudes alimentaires, modifier notre rapport aux animaux en général, et pourtant subsiste quand même une schizophrénie entre les hommes et leur rapport aux animaux.
C'est lent, mais c'est vrai que c'est lent, ça pourrait être plus rapide, mais quand même, ça commence à prendre, si je puis dire. Ça commence à, vous voyez, le travail très efficace de L214 récemment, hein, avec ces images extrêmement frappantes et choquantes en abattoir, ça produit quand même une prise de conscience. Mais ce qui est intéressant, c'est que la prise de conscience, c'est pas de se dire, ah oui, ils sont intelligents, etc. Non, la prise de conscience, c'est juste de voir en face cette sentience, ne plus s'en divertir au sens de Pascal. Parce qu'au fond, on sait très bien qu'ils souffrent, on sait très bien ce qu'on leur fait. Mais on sait sans savoir, on sait sans avoir envie de savoir. Et c'est pour ça que je trouve intéressant le travail d'L214, c'est-à-dire qu'il s'agit simplement de nous mettre en face de tout ça. Il s'agit simplement de voir ce qu'on ne veut pas voir. Et c'est très important ce travail pédagogique, ce travail de désoubli, hein, voir en face ce dont on se divertit, parce que tout commence par là. Et non pas par une théorie. qui nous dirait qu'au fond, nous sommes des animaux, etc. Non, ça commence par ce travail de lucidité.
Mais ce n'était pas l'idée quand même de Peter Singer ou même de Jeremy Bentham que de faire une théorie qui soit incarnée, de faire une théorie qui dépasse justement l'idée de la pensée pour s'ancrer dans la sensibilité. Pourquoi finalement tout ce courant utilitariste et qui a donné lieu à une éthique animale, finalement, elle ne donne pas autant de résultats qu'on aimerait. Finalement, pourquoi avoir misé sur l'unité entre les hommes et les animaux par la sensibilité, par l'idée de douleur ou de plaisir, ne porte pas tant que ça ses fruits et que certains résistent. Alors certes, les mœurs sont lentes, les habitudes sont longues à transformer, mais ce que vous dites aussi, c'est que cet ensemble d'engagements théoriques et même sur un plan incarné échoue d'une certaine manière à nous toucher complètement.
En 2011, vous avez deux philosophes politiques québécois qui s'appellent, enfin canadiens, pardon, qui s'appellent Kim Lika et Sue Donaldson, qui écrivent un livre qui s'appelle Zoopolis et qui commence en disant l'éthique animale a échoué.
Qui est paru l'année dernière en France.
Et qui est paru dans sa traduction française l'an dernier. Zoopolis, un magnifique livre qui tente de penser une nouvelle éthique animale en la politisant, en disant voilà, l'éthique animale en tant que telle, basée sur la sentience, sur la souffrance individuelle, échoue, il faut penser autrement. Et donc c'est vrai qu'il y a cette idée que ça piétine un peu et on peut faire mieux. Et peut-être, alors, ce qu'on peut dire de ce thème de la souffrance dans son cadre utilitariste, parce qu'en effet, Peter Singer est utilitariste, on peut stigmatiser une forme d'intellectualisme ou de théoricisme, c'est-à-dire il y a une théorie qui tente d'évaluer la somme des plaisirs et des douleurs à l'échelle de tous les vivants de la planète, etc. Et à chaque fois, dans la balance utilitariste, il faudra qu'il y ait le moins de souffrance, le plus de plaisir, etc. Et puis, on peut stigmatiser cette idée quand même que c'est peut-être un peu trop intellectuel, ça fonctionne pas si bien que ça, parce que c'est un raisonnement, au fond, un raisonnement pratique, mais on peut peut-être faire mieux. Et peut-être qu'il faudrait repartir au fond du plus simple, c'est-à-dire que, comme disait Lévi-Strauss, nous empathisons très naturellement avec les animaux. Nous faisons communauté avec eux d'une manière très quotidienne. Ça commence en effet par les premiers affects de l'enfant, qui sont des affects très animalisés. Il a des doudous qui sont des animaux. Il a des personnages d'histoire qui sont des animaux. Il va rêver d'animaux. Il va se laisser fasciner face à des animaux. Et c'est très étonnant ce compagnonnage. Et peut-être qu'il faut repartir de ce compagnonnage et tenter de l'élargir et de le cultiver le plus possible en se disant que quelqu'un qui a vécu longtemps avec son chien, son chat, ne le mangerait pas. Non pas parce qu'il a peur de lui faire du mal, bien sûr, il n'a pas envie de lui faire du mal et de provoquer de la douleur, mais peut-être pour une raison plus profonde encore, c'est-à-dire qu'il y a eu ce compagnonnage qui a déteint en quelque sorte sur l'animal et qui a fait que l'animal, nous le regardons autrement que comme simplement de la viande, nous le regardons avec un respect tout particulier. Comme dit Cora Diamond, qui est une philosophe wittgensteinienne qui par ailleurs est végétarienne et qui a écrit un livre très beau qui s'appelle L'importance d'être humain, elle dit « Je suis végétarienne, mais si je ne mange pas de viande, c'est pas parce que je pense à la sentience des animaux, c'est parce que de même que nous ne mangeons pas nos morts, je ne mangerai pas mon chien parce qu'il a pour moi une forme d'importance toute particulière, de sacralité en quelque sorte que le vivre ensemble a fini par produire au quotidien. »
Finalement, les deux écueils, en fait, de ce que vous appelez un moralisme, en fait, qui irait de pair avec le naturalisme scientifique dont on a parlé, Étienne Marbenet, finalement, les deux écueils, c'est soit intellectualisation théorique, finalement, nous met à distance de notre rapport aux animaux, soit une sorte de pathos qui, finalement, réduit et l'homme et l'animal à sa dimension uniquement passive, sensible. Et on pourrait essayer de trouver une troisième voie entre les deux, peut-être celle tracée par Cora Diamond, ou peut-être celle soulevée, vous nous le direz, mais on va d'abord écouter ce texte-là interprété par Georges Claes, celle soulevée par Donna Haraway, qui parle de son animal de compagnie, sa chienne, Miss Cayenne Pepper.
Comment mettre de l'ordre dans tout ça? Canidé, hominidé, animal domestique, professeur, chienne, femme, animal, humain, athlète, entraîneur. L'une est identifiée à l'aide d'une puce électronique implantée sous le cou. L'autre a un permis de conduire californien en guise de carte d'identité. L'une possède des documents retraçant ses ancêtres sur 20 générations. L'autre ignore le nom de ses grands-parents. L'une, produit d'un vaste mélange génétique, est considérée comme blanche. Chacun de ces termes désigne un discours racial dont nous héritons toutes les deux des conséquences à même la chair. Je suis certaine que nos génomes sont plus proches qu'ils ne devraient l'être. Qu'importe si nous sommes deux femelles infertiles, l'une en vertu de son âge, l'autre suite à une intervention chirurgicale. Les codes du vivant contiennent certainement une trace moléculaire de notre contact qui laissera son empreinte dans le monde. Sa langue souple et agile de berger australien, rouge merle, a nettoyé les tissus de mes amygdales et tous leurs avis de récepteurs immunitaires. Qui sait jusqu'où mes récepteurs chimiques ont transporté ces messages ou ce qu'elle-même a emprunté à mon système cellulaire pour distinguer le soi de l'autre et joindre le dehors au dedans. Nous avons tenu des conversations illicites. Nous avons entretenu des rapports oraux. Nous sommes contraintes de raconter une histoire après l'autre à l'aide des seuls faits. Nous nous dressons l'une l'autre à accomplir des actes de communication que nous maîtrisons à peine. Nous sommes, constitutivement, des espèces de compagnie.
Dambenet, on est passé de Donna Haraway qui déclare sa flamme d'une certaine manière à sa chienne Miss Cayenne Pepper, à Paul McCartney qui déclare sa flamme à sa chienne Martha. Et finalement, la question se pose, l'amour que nous portons à nos animaux de compagnie, à nos animaux domestiques, pourquoi n'est-ce pas là la preuve qu'il n'y a pas de distinction à faire avec eux et qu'il s'agit peut-être de maintenir cette continuité plutôt que de vouloir à tout prix les distinguer? Pourquoi vouloir les distinguer finalement?
Moi, j'y peux rien, on est comme ça. Qu'est-ce que je vous dis? Je pense que ce qu'on est en train de faire avec des micros incroyablement sophistiqués, ayant lu un certain nombre d'ouvrages, ce qu'on est en train de faire ce matin, c'est un acte qui nous éloigne très profondément des animaux. Ça n'empêche pas qu'on puisse vouloir des compagnonnages, des enchantements réciproques, une communauté morale la plus large possible. Mais précisément, je pense que ces compagnonnages, ces communautés, c'est à nous humains qu'elles incombent. Parce que, il se trouve que nous sommes des êtres de lien, que nous sommes des êtres de compassion en particulier, que la souffrance gratuite d'un animal nous interpelle. Bon, c'est comme ça. Il se trouve que nous sommes ainsi faits. Et ça, c'est, je crois, quelque chose qui appartient à l'humain. Et que du coup, nous avons une responsabilité à leur égard de les intégrer dans des communautés les plus riches, les plus larges possibles. Ça veut dire que... à la fois, nous sommes très différents, en particulier moralement, dans ces responsabilités morales. Mais nous pouvons être beaucoup plus proches, en vertu même de ces responsabilités morales, en vertu même de cette spécificité humaine. Vous voyez, l'être humain est un être de lien qui invente des communautés et qui peut élargir ces communautés. Et je plaide dans cet ouvrage, en particulier, pour ce que j'appelle un anthropocentrisme élargi. C'est-à-dire qu'anthropocentrisme.
Vous réhabilitez l'anthropocentrisme, finalement.
Oui, de manière un peu provocante, mais je crois que on peut penser un anthropocentrisme, c'est-à-dire dire, ben voilà, nous sommes différents, il faut partir de ce que nous sommes pour aller le plus loin possible en direction non seulement des animaux d'ailleurs, mais des êtres naturels en général, c'est-à-dire que on peut élargir cette communauté jusqu'au lac, jusqu'au vallon, jusqu'à l'arbre, jusqu'à la pierre. On peut vouloir le respect de tous les êtres naturels le plus possible, et a fortiori quand nous aurons étendu jusque-là le cercle de nos respects, lorsque nous nous serons décentrés jusqu'à la pierre et à l'arbre, ben a fortiori nous inclurons les souffrances de l'animal. Mais d'une certaine manière, on n'a même pas besoin de s'arrêter aux souffrances de l'animal. On peut poursuivre. Nous avons, nous humains, du mouvement pour aller jusqu'à la pierre et à l'arbre. Et je pense qu'il faut cultiver ce mouvement parce qu'il est beau. L'être humain, lorsqu'on l'interroge en première personne, subjectivement, est un être qui peut se décentrer, se désubjectiver très loin.
Alors comment comprendre ce paradoxe de, dès qu'on redonne en fait à l'homme la responsabilité, dès qu'on mise aussi sur son imagination et sur sa capacité à voir autrement les animaux, c'est ce que vous rappeliez de Cora Diamond qui dit « je vois autrement mon chien », on pourrait dire ça aussi de Donna Haraway. Alors il faut quand même la présenter, c'est une professeure d'histoire américaine, elle est pionnière du cyberféminisme. Et là on a entendu un extrait de son manifeste des animaux de compagnie, chiens, humains et autres partenaires, qui date de 2003. Et dans ce cas-là, en fait, on voit bien qu'on mise sur l'homme plutôt pour avoir un certain rapport aux animaux. Et miser là-dessus n'a rien de suspect. Rétablir cette différence entre les hommes et les animaux n'a rien de suspect. Le problème, c'est que dès qu'on introduit de la différence, on est soupçonné de vouloir aussi introduire des formes de domination. C'est ça aussi le reproche qu'on fait à la différence, c'est de s'en servir pour dominer l'autre. Et c'est aussi, d'une certaine manière, l'histoire qui le prouve.
Oui, alors Donna Haraway s'inscrit exactement dans cette pensée, dans ce procès fait à toute forme de catégorisation qui viendrait séparer métaphysiquement les vivants, les hommes des femmes, le vivant de la machine, l'humain de l'animal. Et toutes ces séparations, elle les voit comme des séparations métaphysiques avec lesquelles il faut absolument en terminer. Et dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, elle s'appuie, on voit bien, sur des sciences biologiques. Proprement biologique, c'est-à-dire que ce qu'elle aperçoit de proximité entre l'homme et l'animal, ce sont des échanges génétiques, des échanges biologiques, des
échanges
moléculaires.
Elle parle d'un vaste mélange génétique, elle parle aussi des tissus de ses amygdales nettoyés par les avides récepteurs immunitaires.
Oui, quand elle parle de ses amygdales nettoyées par la langue de sa chienne, c'est qu'elle la scène inaugurale qui ouvre le manifeste des espèces de compagnie, son ouvrage de 2003. C'est un long baiser, mais profond, hein, avec la langue, entre elle et sa chienne. Donc elle y va, si je puis dire, elle y va, et c'est une scène qui est belle, parce qu'elle dit voilà ce qu'on peut, il faut aller très loin. Sauf que elle y va, elle, par un biais qui ne me convainc pas, si vous voulez. Elle y va par les sciences de la vie à l'état pur. Elle dit nous sommes faits de la même étoffe, si je puis dire, matérielle, nos organes, nos microbes, elle parle beaucoup des microbes, notre biologie est similaire. Je la trouve beaucoup plus convaincante dans la deuxième partie de son ouvrage, lorsqu'elle instruit cette proximité à travers les formes de vie. Et elle dit avec ma chienne Pepper, Cayenne Pepper, je l'adresse à des concours de course avec obstacles. Et là, il y a un vivre ensemble qui est très riche parce qu'à la fois elle s'épanouit. Et elle s'épanouit au-delà de simplement sa sentience. C'est pas juste le fait qu'elle ne souffre pas qui est en question, c'est bien davantage. C'est le fait d'avoir des capacités les plus heureuses possibles, au-delà de sa simple préservation vitale, au-delà de son simple bien-être. Hein. Un animal peut plus que cela, et je trouve très intéressant ça. Elle s'épanouit, je m'épanouis dans sa compagnie, et il y a une forme de co-épanouissement ou de bonheur conjoint, si vous voulez, que je trouve très beau et qui est beaucoup plus convaincant, si vous voulez, que le fait d'asseoir la proximité sur les sciences matérielles. Oui, ça me semble beaucoup plus convaincant parce que c'est, d'une certaine manière, en effet, ça procède de l'humain, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus anthropocentrique d'une certaine manière, parce que c'est elle qui a décidé de dresser sa chienne à ce type de sport. Simplement, les sports d'agility, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, l'animal y trouve son compte et elle aussi, parce qu'elle apprend beaucoup de sa chienne dans ce livre, elle apprend beaucoup de ce que peut un corps vivant, et c'est très beau. Et ça veut dire que les compagnonnages, même s'ils sont initiés par les humains, décentrent les humains dans des directions aventureuses, dans des directions inexplorée. On ne sait pas ce que peut un corps vivant, on ne sait pas ce que l'animal nous apprendra, et il faut aller très loin dans cette direction.
Ce cartésianisme, cette pensée du cogito depuis laquelle on déduit une certaine théorie de l'animal, commande de façon directe ou indirecte, philosophique ou non, toute la modernité de notre rapport à l'animal. L'animal, objet, victime naturellement de traitements qui ont toujours été cruels mais qui dans la modernité aggravent singulièrement la cruauté, de l'animal qui ne parle pas, ne répond pas surtout. Et donc j'essaie de montrer que ce cartésianisme, sous des formes différentes, commande aussi bien l'analyse kantienne de l'animal, qui ne peut pas dire « je », que l'analyse lacanienne de l'animal. Mmh. Est entendu que le rapport à l'animal, de l'homme à l'animal, a une histoire, que le concept, le mot même, je ne dis pas le concept, parce que je crois que l'animal n'est pas un concept, que ce qu'on met au singulier, quand on parle de l'animal, ne répond à aucune réalité. Il n'y a pas quelque chose comme l'animal. Et déjà, le fait de ranger tous les vivants non humains sous la catégorie homogène et universelle de l'animal est une absurdité philosophique et une violence, le début de la violence. Donc, il n'y a pas l'animal. Il y a le mot animal, je propose de parler de l'animo, ce qu'on appelle l'animo, c'est-à-dire ce mot d'animal sous lequel on classe absolument toutes les organisations du vivant qui ne sont pas nous.
C'était la voix de Derrida sur France Culture dans l'émission d'Alain Weinstein du jour au lendemain, c'était en 1999. Ce mot animal, cet animo dont il est question, finalement avec l'idée d'anthropocentrisme élargi que vous défendez, Étienne Bimbenet, cette idée à la fois de redonner la responsabilité à l'homme, ce qui lui permet en fait, et paradoxalement, de se décentrer, lui permet aussi d'être beaucoup plus subtil dans son appréhension de l'animal, du coup des animaux, et puis aussi de prendre en compte des formes de vie qui dépassent largement le cadre des animaux.
Oui, c'est un mot, valise, animaux, A-N-I-M-O-T, que Derrida propose dans son ouvrage, son magnifique ouvrage, s'appelle L'animal que... Donc je suis, et d'une manière générale, dans la philosophie de l'animal, on se repasse ce mot hein, comme un sésame pour dire mais il ne faut pas parler de l'animal en général, ça n'a pas de sens au vu de l'extrême diversité des espèces et des comportements animaux. Et donc il faut pluraliser ce mot d'animal et toujours parler des animaux. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, et en particulier cette idée que nous découvrons, nous ouvrons notre regard à cette richesse, c'est nouveau, c'est important. Encore une fois, ça n'empêche pas de les apercevoir à distance de nous, en particulier parce que, comme dit Derrida, l'animal ne répond pas. Et c'est très important, c'est-à-dire que la communauté de langage humaine est une communauté très ouverte. Je vous disais tout à l'heure que nous sommes des êtres de lien et en particulier nous sommes par le langage, c'est-à-dire que nous nous adressons à tous les vivants autour de nous comme s'ils allaient nous répondre. Et un enfant s'adresse à ces animaux très spontanément et donc la communauté de langage est une communauté un peu folle qui va à l'infini, si je puis dire, qui voudrait que tous les vivants puissent répondre et il se trouve que l'animal ne répond pas. L'animal n'a pas le langage. Donc là, il y a une espèce de saut. De silence des bêtes, comme disait Elisabeth de Fontenay, qui fait que on éprouve cette différence très, très radicalement. Mais on l'éprouve, mais on voudrait quand même. Et je pense que de vouloir les inclure dans la communauté par peut-être d'autres langages, des langages corporels, des langages affectifs, peut relancer la communauté au-delà de ce silence et faire que notre communauté se veut la plus englobante et doit penser cette pluralité des animaux et aller le plus loin possible dans cette pluralité. On ne sait pas, encore une fois, on ne sait pas ce que peuvent les animaux. On le sait mal encore et on peut le découvrir à la faveur de cette communauté.
Non, le risque, Étienne Bimbenet, c'est effectivement de prendre acte de cette distinction, de cette différence anthropologique profonde entre les hommes et les animaux, celle du langage notamment. Effectivement, les animaux ne répondent pas et sans tomber non plus dans le spécisme, par exemple. C'est un des grands mots qu'on entend. Il faut être antispéciste. Comment prendre acte de cette différence anthropologique sans être spéciste, sans projeter non plus, anthropomorphiser plutôt que être dans l'anthropocentrisme, sans anthropomorphiser du coup les animaux. Comment faire pour éviter ces écueils-là?
La voie est étroite, je suis bien d'accord avec vous. Dire nous sommes différents, mais nous allons œuvrer à une communauté la plus large possible, c'est compliqué. Mais encore une fois, je le redis comme au début de l'émission, je pense que nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire qu'en effet, ce serait tellement plus simple de dire on est tous des animaux, c'est formidable, cette grande communauté, elle est là, et nous n'avons plus qu'à nous y installer avec armes et bagages. Oui, ce serait tellement plus simple, sauf qu'en fait, nous vivons autrement. Et nous apprenons à un enfant à ne pas manger comme un animal, à ne pas manger comme un cochon, etc., etc. Et tous nos usages tournent le dos, en quelque sorte, à une forme d'animalité. Et nous sommes ainsi faits, nous humains, que nous mangeons les animaux et nous ne mangeons pas les humains. Nous nous éduquons à tourner les dos, en quelque sorte, à un certain nombre d'usages animaux. C'est comme ça. Et on peut pas tout d'un coup faire comme si nous ne vivions pas ainsi. Alors on peut tenter de transformer ces usages, ces comportements, on peut tenter d'acclimater le plus de tendresse, de douceur entre nous et les animaux, bien sûr. Mais se raconter des histoires et se dire qu'au fond il n'y a pas grande différence, c'est faux. N'importe qui ayant des enfants et les éduquant au jour le jour sait qu'il est, il est fort loin de l'animal. Il passe son temps à lui dire mais non, mais c'est pas comme ça qu'on mange, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on parle, on ne crie pas, hein, etc., etc. Et donc on peut pas se mentir sur ce que les hommes vivent, ce que les hommes font. C'est assez Wittgensteinien ce que je vous dis, au sens où il y a des formes de vie, comme dit Wittgenstein, qui ont leur grammaire propre, qui ont leurs règles propres. Et on les oublie. Elles sont là, il n'y aurait qu'à les décrire, dit Wittgenstein. Et la philosophie, bizarrement, passe son temps à chercher autre chose, des fondements cachés, etc. Mais il n'est que de décrire, dit Wittgenstein. Eh bien, décrivons nos usages, vous verrez qu'ils n'ont rien, mais rien d'animal. Et la question après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces usages? Qu'est-ce qu'on fait de cette distance que nous creusons entre nous les animaux? Tentons de l'adoucir, tentons d'adoucir la frontière, comme dit Derrida, qui a ce très beau mot de limitrophie, c'est-à-dire cultiver la limite entre eux et nous, et tentons de l'adoucir. Someone told me it's all happening at the zoo. I do believe it, I do believe it's true. It's a light and tumble journey from the east side to the park, just a fine and fancy ramble to the zoo. But you can take a crosstown bus if it's raining or it's cold, and the animals will love it if you do. It's true. The monkeys stand for honesty, giraffes are insincere, and the elephants are kindly, but they're dumb. Merci beaucoup, Étienne Bambenet. Merci à vous.
Merci d'être venu donc présenter votre livre. Donc je rappelle le titre, c'est Le complexe des trois singes et c'est sur l'animalité humaine. On le trouve au Seuil. Et puis de vous aussi, on peut lire, on est en pleine vacances de Noël. Donc entre Noël et le jour de l'an, on peut lire aussi L'animal que je ne suis plus, qui est paru chez Gallimard, et L'invention du réalisme, disponible aux éditions Cerf. Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Adèle Vendrette bien sûr, David Pargamin, Marianne Chassor, Claire Perriman-Holt, Louis Servet, Nicolas Berger à la réalisation, Georges Clès à la lecture des textes aujourd'hui, et Yanis Djoudad et Jacques Azubert à la prise de son. La semaine prochaine, vous retrouverez Adèle Vendrette pour une nouvelle semaine des Chemins de la Philosophie. Au programme, accrochez-vous, c'est Alien, la saga, tous les films du premier au dernier, décryptés par nos spécialistes philosophes. Mais d'ici là, pour réécouter cette émission, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez bien sûr l'écouter en ligne, la télécharger, la podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales. Et puis bien sûr, rendez-vous sur les pages Facebook et Twitter des Chemins de la Philo pour retrouver toutes nos émissions. Vous écoutez France Culture. À midi, vous avez rendez-vous avec Raphaël Bourgois pour La Grande Table. Mais maintenant, à 11h, c'est Culture Monde par Tiphaine de Roquigny.